Bonjour, aujourd'hui 23 septembre 1940, il y a 70 ans, un échec oublié de la France libre, de Gaulle à Dakar.
C'est aujourd'hui notre première étape sur la route de la libération de la France. Dans une heure, notre compagnie entrera dans l'action. Vive la France libre, vive le général de Gaulle!
Ans d'histoire. Le 23 septembre 1940, au large du Sénégal, le commandant d'un aviso de la France libre annonçait le début d'une opération oubliée de la Deuxième Guerre mondiale. Son nom de code, l'opération Menace. Son objectif, s'emparer de Dakar et faire passer toute l'Afrique occidentale française sous l'autorité du général de Gaulle. Depuis l'appel à la résistance qu'il avait lancé de Londres 3 mois plus tôt, le chef de la France libre ne disposait encore que d'une poignée de volontaires et dépendait totalement de l'aide du Royaume-Uni. S'il parvenait à s'emparer de Dakar et de l'Afrique occidentale, de Gaulle y disposerait d'une assise territoriale dans une colonie française, mais qui était restée sous l'autorité de Vichy après la défaite et l'armistice de 1940.
Allô, allô, Radio Dakar, Radio Dakar. Environ de 31,88 m, 9,410 kg.
Notre voyage à Dakar est achevé. Tout à l'heure, nous décollerons de cet aérodrome de Wakam et nous laisserons un Dakar français. Un Dakar bien gardé, bien conduit par ce grand français qu'est le gouverneur général Boisson. Et nous laisserons Dakar sur cette impression de calme que symbolise l'appel à la prière du soir du muezzin, à qui se mêlent les sonneries des clairons, à bord des grands croiseurs dans la rade et le port qui sont toujours français.
Patrick Girard, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était il y a 70 ans, quand Dakar était la capitale paisible d'une colonie française, lorsque le 23 septembre s'y produisait un épisode oublié de la Deuxième Guerre mondiale, la première grande opération militaire de la France libre, une opération que vous rappelez dans un livre publié chez Calman Lévy, De Gaulle, le mystère de Dakar. Pourquoi le mystère ?
Je dirais qu'il y a un double mystère. Le premier mystère, c'est celui qui est entretenu autour de la tentative ou non de suicide du général de Gaulle après l'échec de l'opération Menace pour s'emparer de Dakar, la capitale de l'AOF, de l'Afrique occidentale française. Et puis il y a un autre mystère, c'est le silence qu'on fait depuis 1940 sur cet événement, parce que cet événement est littéralement passé sous silence par l'ensemble des historiens et il a été passé sous silence par un certain nombre d'acteurs et de témoins. Alors on comprend très bien que, par exemple, les militaires n'aient pas eu envie de rappeler qu'ils avaient tiré contre d'autres Français.
C'est ça, c'était vraiment la première fois qu'on voyait des Français tirer sur d'autres Français pendant cette époque.
C'est le premier affrontement entre Français libres et entre vichistes. L'autre affrontement de taille nettement plus importante, ce sera à Damas au printemps 1941. Mais déjà, cette première guerre civile qui s'ouvre à Dakar va considérablement modifier les rapports au sein de la France libre et dans les relations avec Vichy.
La France libre, vous le rappelez, Patrick Girard, qui en est à ses tout débuts. On oublie quand même les difficultés qu'elle a pu rencontrer au départ. Quand il lance son appel le 18 juin, De Gaulle est à peine connu. Pétain bénéficie encore d'un très grand prestige. Et finalement, c'est avec une poignée seulement de Français libres que De Gaulle entreprend cette épopée qui deviendra celle de la France libre, qui n'en était donc qu'à ses débuts et qui était installée à Londres.
Elle était installée à Londres depuis juin 1940. C'était ce que De Gaulle qualifie dans ses mémoires de pauvre fortune de la France. C'est-à-dire, il faut imaginer ces 3000, 4000 hommes mal armés qu'on a rassemblés, dont certains sont effectivement volontaires pour poursuivre le combat, dont d'autres ont d'autres motivations. Et ce sont tous ces hommes qui vont se retrouver quasiment embarqués sur la flottille anglo-britannique pour se lancer à l'assaut de Dakar. Et réussir une opération, car on leur a dit que Dakar allait tomber, c'était sûr, net et certain. La population n'attendait qu'une chose, l'arrivée de la France libre.
En fait, dès le début, de Gaulle est parfaitement conscient que si il doit poursuivre le combat, il pourrait le faire dans de meilleures conditions dans un empire français qui était resté pour l'essentiel sous l'autorité de Vichy et sur lequel de Gaulle comptait s'appuyer donc pour continuer le combat contre l'Allemagne.
Dans cette guerre mondiale et totale, dans cette guerre où tout compte, l'Empire français est un faisceau de force capitale. Le crime de l'armistice, c'est d'avoir capitulé comme si la France n'avait pas l'Empire. Le crime de l'armistice, c'est d'avoir méconnu les forces immenses et intactes que nous gardions dans l'Empire. Le crime de l'armistice, c'est d'avoir désarmé l'Empire pour que l'ennemi puisse en disposer.
Pour combattre avec de Gaulle, souviens-toi, il faut taper pas mal de tôle, en veux-tu, en voilà.
Et c'était De Gaulle à la radio de Londres le 29 août 1940, trois semaines avant l'expédition de Dakar. De Gaulle qui, à cette époque, nous sommes, je répète, le 29 août, peut déjà compter sur quelques colonies françaises qui se sont ralliées justement à lui.
Oui, au soir du 29 août, De Gaulle peut triompher puisqu'il vient d'enregistrer le ralliement de l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire essentiellement le Tchad, le Cameroun et le Moyen-Congo, ainsi que l'Oubangui-Chari, qui se sont ralliés à sa personne sous l'autorité du gouverneur général Félix Éboué. C'est une providence pour De Gaulle parce que jusqu'à présent, il régnait au fond sur quoi ? Sur les établissements français de l'Inde et sur les établissements français de Sainte-Hélène, ce qui était bien peu pour
asseoir... Les Nouvelles Hébrides aussi.
Et les Nouvelles Hébrides, mais c'était bien peu pour asseoir son autorité vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Et surtout, De Gaulle avait, car il savait qu'un jour ou l'autre, il entrerait en conflit avec Churchill, il avait besoin d'une base territoriale qui soit l'assise de la France libre et de l'indépendance de la France.
Alors il l'a, mais effectivement ça représente des colonies qui sont de moindre importance. Même l'Afrique équatoriale française, malgré sa taille, vous l'avez dit, c'est le Tchad, c'est le Congo, c'est le Cameroun, ce sera bientôt le Gabon, Patrick Girard. Mais alors, ce qui compte vraiment dans l'Empire à l'époque et qui a une importance stratégique considérable, c'est ce qu'on appelle l'Afrique occidentale française, dont la capitale en fait est Dakar, mais c'est le Sénégal, c'est l'actuel Mali, c'est la Mauritanie, c'est immense, c'est le Bénin,
enfin à l'époque Dahomey, c'est la Côte d'Ivoire, c'est véritablement ce que Félix Houphouët-Boigny appelait la Cendrillon de l'Empire, c'est-à-dire la partie la plus riche de l'Empire africain de la France qui travaillait et qui donnait à manger et du travail à l'ensemble de l'Afrique française. Donc pour De Gaulle, il est d'une nécessité importante de s'emparer de l'AOF, d'autant plus que s'y trouvent plusieurs centaines de tonnes d'or qui sont l'or à la fois de la République française, mais aussi de la Belgique et de la Pologne. Et cet or est stocké à Bamako, et De Gaulle pense que s'il réussit à s'emparer de ces stocks d'or, il aura les moyens de financer ses achats d'armes aux États-Unis. Et puis en plus, Dakar, c'est une formidable place maritime et il escompte bien en faire un tremplin pour les activités militaires de la France libre.
Avec une flotte également, notamment un grand cuirassé à l'époque qui s'appelait le Richelieu. Donc c'est également quelque chose d'important, y compris d'ailleurs pour les Anglais, Patrick Girard. Parce
ça les intéresse,
le port de Dakar.
Le 3 juillet, ils ont lancé une attaque pour neutraliser la flotte française aussi bien à Oran, Mersel Kébir, qu'à Alexandrie en Égypte. Et de nombreux navires français fuyant l'avance allemande en juin 1940 se sont réfugiés à Dakar. Et donc il y a là une flotte importante sur laquelle De Gaulle espère pouvoir mettre la main, mais une flotte qui est très anti-britannique en raison du traumatisme créé par le drame de Mersel Kébir.
Une flotte et un gouverneur, le gouverneur général Boisson, qui est resté fidèle à Vichy et qui refuse de se rallier au général de Gaulle, considérant que ce serait, disait-il, se séparer de la France.
À l'insistance avec laquelle on nous incite à nous séparer de la France,
Il ne peut y avoir qu'une raison de prestige africain. Pour donner cette satisfaction de prestige qu'on nous demande, il faudrait se résoudre à ajouter au malheur de la France, et comme je vous l'ai dit, à briser dans la dissidence notre cohésion nationale. Jamais. La France d'abord. À ceux qui ne voudraient pas comprendre, à ceux qui se laisseraient tenter par les appels qui viennent de l'extérieur, mon devoir serait, et je ne saurais y faillir, de leur faire sentir toutes les rigueurs de la loi.
Patrice Gélinet.
Et on a entendu Patrick Girard, le gouverneur Boisson, qui allait jouer un rôle considérable dans cette affaire de Dakar, puisqu'il en était le gouverneur, c'est-à-dire gouverneur de toute l'AOF, refusant de se rallier au général de Gaulle. C'était avant cette opération dont nous allons parler. Boisson qui est un personnage intéressant, parce que c'est pas un pétainiste, un ultra de la collaboration.
Ça n'a jamais été un ultra de la collaboration. Pierre Boisson, c'est le pur produit de l'ascenseur social de la Troisième République. C'est le fils d'un modeste couple d'instituteurs. Il a lui-même commencé sa carrière comme instituteur. Il est blessé et amputé durant la Première Guerre mondiale. Et à ce titre, il peut passer le concours de l'école coloniale, qui est l'ENA de l'époque. Il en sort majeur et il entame une longue carrière coloniale qui va le mener à être, en 1940, gouverneur général de l'AEF. Et quelques jours avant le ralliement de l'AEF à De Gaulle, Boisson est muté par Vichy à Dakar. Il devient gouverneur général de l'AOF. Et là, il affirme sa volonté de ne pas se rallier à la France libre.
Alors, il l'affirme d'autant plus qu'il est marqué par Mercel Kébir, par l'action des Britanniques contre la flotte française, parce qu'il craignait, ces Anglais, qu'elle soit utilisée contre la Grande-Bretagne, qui à l'époque, rappelons-le, est le seul grand pays à se battre encore contre l'Allemagne. Les États-Unis ne sont pas encore en guerre, et l'Angleterre qui participe, qui est même à l'origine, on dit que c'est Churchill qui a voulu, qui a poussé De Gaulle en direction de Dakar.
Alors c'est ce que De Gaulle affirme dans ses mémoires, parce qu'il prend un peu Churchill comme bouc émissaire et il nous peint de Churchill en train de lui brosser un tableau extraordinaire, des centaines de navires devant le port de Dakar, le jour qui se lève, la population qui manifeste dans les rues, qui acclame les troupes de la France libre et le gouverneur général Boisson qui tombe dans les bras du général de Gaulle. C'est une fresque qu'on imagine bien de Churchill récité, un peu noyé dans le whisky dont il abusait. En fait, il semble que De Gaulle ait beaucoup exagéré là-dessus, parce que c'est en partie lui-même qui est à l'origine de l'affaire de Dakar.
Alors cela dit, cette opération est préparée bien longtemps avant qu'elle se déclenche. Elle s'appelle l'opération Menace, et effectivement, c'est une flotte considérable qui se dirige vers Dakar, et sur les 25 bâtiments de guerre qui la composent, il y a quand même 20 bâtiments britanniques, dont un porte-avions, deux cuirassés, 5 croiseurs, 10 destroyers, c'est quand même considérable. Et d'ailleurs, cette flotte qui se dirige vers Dakar et qui compte, je crois, à peu près 2000 soldats français sur 6000 soldats britanniques, cette flotte est commandée en chef par un amiral britannique.
Par un amiral britannique, car Churchill entend avoir la haute main sur l'opération, bien entendu.
Alors, 5 bâtiments également des forces navales françaises libres, 2 chalutiers armés et 3 avisos, dont le commandant du BOC, qui le 23 septembre au matin se trouvait donc devant le port de Dakar. C'était il y a 70 ans. Le commandant s'adressait à ses marins une heure avant le débarquement.
C'est aujourd'hui notre première étape sur la route de la libération de la France, devant une des plus belles possessions de notre empire. C'est à Dakar qu'il faut prendre pied. C'est le Sénégal qu'il faut garder de l'influence néfaste de ceux qui suivent la voie de la soumission. C'est le Sénégal qu'il faut aider à venir à nous. Dans une heure, notre compagnie entrera dans l'action. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que ceux auxquels vous aurez affaire sont des Français et que de braves gens ont pu être abusés, quel que soit le résultat. Nous poursuivrons. Le général nous a promis une tâche longue et rude. Vive la France libre! Vive le général de Gaulle!
Et c'était il y a 70 ans le commandant d'un des avisos aux Français qui se trouvait devant Dakar le 23 septembre, justement pour cette opération menace de débarquement qui devait se faire dans l'esprit de De Gaulle et de Churchill pacifiquement. Vous l'avez dit à l'instant, les deux hommes étaient persuadé que finalement, Dakar et son gouverneur se rallieraient à eux, pratiquement sans tirer un coup de feu. On l'a entendu d'ailleurs, ce que dit le commandant de ce bateau, c'est dire c'est les Français qui sont en face de vous, et les exhortant même à éviter les tirs.
Oui, d'ailleurs, De Gaulle a précisé qu'il se retirerait s'il y avait une résistance de la part des Français de Dakar. Mais il ne compte pas sur cette résistance des Français de Dakar, parce qu'il est persuadé par les rapports, au demeurant fort anciens, qu'il avait reçu sur l'état d'esprit de la population en AOF, que celle-ci n'attendait qu'une chose, le moment de rentrer dans la guerre. Et c'est vrai que dans les premiers jours de juin, dans les deuxième quinzaine de juin et les premiers jours de juillet 1940, l'AOF voulait rentrer dans la guerre. Mais il y a eu l'affaire de Mercel Kébir, et là il y a eu un changement total, il n'est plus question pour les Français de Dakar, de se rallier à une Angleterre qui a du sang français sur les mains.
Alors là, justement, on est en septembre. Alors, il y a une délégation conduite par le commandant d'Argentlieu, le futur amiral d'Argentlieu, qui va négocier, qui tente d'aller négocier, qui traverse le port, qui tente d'aller négocier avec le gouverneur, et elle est accueillie par des coups de fusil.
Elle est accueillie par des coups de fusil, alors que De Gaulle a pris soin de composer cette délégation avec la plus grande minutie. Il y a le futur amiral d'Argentlieu, Thierry d'Argentlieu, qui est par ailleurs un carme, un moine déchaussé. Et puis il y a d'autre part le petit-fils du maréchal Foch, le capitaine Foch-Bécourt. C'est bien montré que finalement, c'est joué sur la carte sensible de Boisson, qui est un ancien combattant, qui devrait être sensible au prestige de Foch. Et ça ne marche pas.
Boisson donc fait tirer, ou en tout cas ses soldats tirent sur cette délégation. Échec du débarquement à Dakar même. Échec d'un débarquement également à côté de Dakar. À Rufisque, il y a même deux Français libres qui sont tués. Échec également de ceux qui tentent de s'emparer de l'aérodrome de Wakam. Bref, c'est un échec sur toute la ligne. Le 23, on peut dire que l'opération a échoué. De Gaulle, d'ailleurs, demande à ce qu'elle s'arrête. Et c'est Churchill qui donne l'ordre à Cunningham de continuer.
Oui, car Churchill estime qu'il n'a pas déployé pour rien ses navires. Il lui faut un résultat et il estime que les coups portés par l'artillerie britannique sont suffisamment important pour qu'on puisse espérer que le lendemain ou le surlendemain, eh bien Dakar, à court de munitions, est victime de nombreux bombardements, parce que ces bombardements ont quand même fait des dizaines et des dizaines de morts, notamment dans les quartiers indigènes de Dakar. Churchill espère que finalement, force en restera à l'escadre franco-britannique et qu'il mettra la main sur Dakar et l'AOF.
Des bombardements sérieux, il y a même plusieurs bateaux qui sont touchés. Ça dure effectivement deux jours. Ça avait commencé le 23, ça continue le 24, ça continue le 25, jusqu'à ce qu'un navire britannique soit torpillé. Finalement, Cunningham donne l'ordre d'arrêter les opérations.
Effectivement, Cunningham donne l'ordre d'arrêter les opérations, parce qu'il n'y a plus de chance de réussite d'un débarquement terrestre. D'autre part, la résistance des fortifications de Dakar est telle qu'on ne peut pas envisager de passer en force et de rentrer dans un port qui est protégé par une série de filets anti-torpilles. Donc l'escadre franco-britannique va faire marche arrière et elle va se diriger vers l'actuel Ghana et puis ensuite vers le Cameroun où De Gaulle sera en quelque sorte débarqué par les Britanniques et prié de commencer à remettre de l'ordre dans l'administration de l'AEF.
Tandis qu'à Vichy, bien sûr, on exulte et Radio Paris, évidemment, va à Dakar pour demander aux habitants de Dakar leur réaction lorsque la ville a été attaquée par les forces franco-britanniques.
Pouvez-vous me dire quelle a été votre réaction personnelle lorsque le 23 septembre l'attaque de De Gaulle et des Anglais a eu lieu contre Dakar?
Une réaction assez violente. Après les premiers coups de canon sur la ville, les premières bombes sur le port, nous avons tous ressenti de l'indignation et de la colère. Un grand nombre d'entre nous étaient déjà fixés sur nos anciens alliés, mais trop d'hésitants cherchaient encore leur voie. Les 380 de la marine britannique ont dissipé bien des malentendus. La fière réponse de notre chef, le gouverneur général Boisson, traduisait notre plus vif désir, ne pas céder. Nous avions le sentiment qu'en luttant, nous travaillions pour la France. Le Sénégal, vieille province française, allait ranimer la confiance d'autres provinces meurtries. Nous étions certains de participer à un sursaut de tout l'Empire.
Et c'était un habitant de Dakar, quelques jours après cette opération, ce fiasco, effectivement, pour De Gaulle et pour Churchill. D'ailleurs, curieusement, vous le rappelez, Patrick Girard, Churchill est encore plus attaqué que De Gaulle par la presse britannique, qui est extrêmement féroce avec lui.
À la presse britannique se déchaîne littéralement contre le Premier ministre, l'accuse d'être un incapable, d'avoir engagé la Grande-Bretagne dans une affaire où elle n'avait rien à faire. Il y a un débat au Parlement et Churchill fait face. Il fait face, il répond aux critiques, il se défend, il justifie l'opération sur Dakar et surtout, il réaffirme son soutien au général de Gaulle, un général de Gaulle qui, lui, en a bien besoin parce qu'il a été profondément meurtri par l'échec devant Dakar.
Vous avez effectivement tout à l'heure évoqué le suicide. On a parlé d'une tentative de suicide que de Gaulle tout à fait démoralisé par cette épreuve, parce que pour lui, c'est un échec grave. Il se serait produit au milieu de la guerre, mais là, c'est cette toute première grande opération de la France libre, et vous dites que, le choix, dès le 23, il avait envisagé, il l'a d'ailleurs dit à Thierry d'Argenlieu plus tard, il avait envisagé le suicide, la mort.
Effectivement, bien que ce soit une version qui soit contredite par le fils du général, l'amiral Philippe de Gaulle, qui affirme que jamais son père, qui était un bon chrétien, n'a songé à mettre fin à ses jours, mais on a différents témoignages, que ce soit de Pierre Messmer, que ce soit de Thierry d'Argenlieu ou d'autres, qui tous attestent que De Gaulle est passé par une période de très profond désespoir et qu'il aurait tenté de se suicider. Alors les versions diffèrent. Selon les uns, il aurait voulu se tirer une balle dans la tête. Selon les autres, il aurait tenté de sauter par dessus bord du navire où il se trouvait. Il y a même une autre version où l'on dit que ce sont les légionnaires qui participaient à l'opération qui ont voulu le flanquer à l'eau pour se venger de l'échec et que De Gaulle aurait été sauvé de cette noyade par un homme avec lequel il aura par la suite des relations pour le moins difficiles, le général Paris de la Bollardière. Vous voyez, il y a différentes versions, mais toutes convergent autour de l'hypothèse qu'effectivement, De Gaulle a traversé un très fort moment de désespoir et qu'il a effectivement songé à mettre fin à ses jours.
Il y avait de quoi être désespéré, parce que pour la France libre, c'est un coup très dur. Nous l'avons dit au début, Patrick Girard, elle compte très peu d'hommes, et il va de soi que ce n'est pas ça qui va multiplier les ralliements.
Certainement pas. D'ailleurs, le seul ralliement qui aura lieu après l'affaire de Dakar et jusqu'en printemps 1941, ce sera le ralliement du Gabon qui intervient après une opération militaire montée contre le Gabon, mais c'en est fini des ralliements de l'Empire. Aucune colonie de l'AOF ne se ralliera, l'AOF restera du côté de Vichy jusqu'en novembre 1942, et très rares seront ceux qui viendront rejoindre De Gaulle au lendemain de Dakar, parce qu'il a versé le sang français et que cela lui est tenu pour un reproche.
Il y a une réaction que vous évoquez et qui est assez curieuse parce qu'elle expliquerait beaucoup les rapports, les mauvais rapports qu'il y a eu ensuite entre Roosevelt et De Gaulle. En fait, à ce moment-là, Roosevelt se méfie d'ores et déjà du général De Gaulle. Ça expliquera que plus tard, il préférait s'appuyer sur d'autres que De Gaulle.
Effectivement, parce que Roosevelt prend De Gaulle pour un apprenti dictateur.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec Dakar, il le prenait déjà.
À ceci près qu'aux yeux de Roosevelt, l'opération de Dakar, c'est un peu comme l'opération qu'avait montée Franco pour s'emparer des positions espagnoles républicaines. C'est comme ça, en tous les cas, que dans l'entourage de Roosevelt, un certain nombre le présente. Et puis surtout, Roosevelt est furieux contre De Gaulle parce qu'il attribue l'échec de Dakar aux conversations et aux rumeurs qui auraient été diffusées par des membres de la France libre.
Oui, il faut rappeler ça, vous le dites dans votre livre. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que entre le moment où la flotte franco-britannique quittait l'Angleterre et le moment où elle s'est retrouvée devant Dakar, plusieurs jours se sont passés et entre-temps, on a vu les fortifications de Dakar augmenter considérablement en prévision de cette agression qui était finalement connue et on dit que ce sont les services du général de Gaulle qui auraient aurait révélé les intentions de Gaulle et des Britanniques, si bien qu'on se méfiait de lui, c'est ça?
Effectivement, parce que par exemple, en Angleterre, dans les camps d'entraînement de la France libre, on a pu voir les soldats de la France libre, dont certains revenaient de Norvège, être soudain équipés de shorts et de casques coloniaux, ce qui donnait quand même une certaine idée sur l'endroit où ils allaient se rendre. Pierre Besmer faisait, lui, justice de ses affirmations en estimant...
Pierre Besmer, un Français libre du premier jour.
Voilà, hein, et qui était à Dakar, il disait que ce n'était pas uniquement les Français libres qui parlaient beaucoup dans les bars, il y avait aussi les Britanniques qui parlaient. Mais en tous les cas, pour les Américains, c'est la preuve qu'on ne peut pas faire confiance aux Français libres, qu'une information donnée à la France libre, eh bien, c'est une information qui arrivera sur le bureau des Allemands. Et donc, cela expliquera qu'en novembre 1942, Roosevelt refusera que De Gaulle soit tenu au courant des préparations du débarquement en Afrique du Nord, précisément pour qu'il n'y ait pas de fuite.
Et même le 6 juin 1944, c'est-à-dire que le débarquement en Normandie, on aurait tenu De Gaulle à l'écart simplement à cause de cela.
Effectivement, De Gaulle a payé le 6 juin 1944 ce qui s'était passé le 23 septembre 1940 devant Dakar, ce qui explique peut-être que le général De Gaulle n'avait pas très envie d'évoquer le souvenir de Dakar. C'était pour lui une blessure profonde.
Il en a beaucoup voulu à ce gouverneur général Boisson, dont vous rappelez quand même, Patrick Girard, que après le débarquement allié en Afrique du Nord, tout de suite, il a rallié l'AOF aux alliés. Hein. Il n'a pas du tout tenté de résister, mais De Gaulle en voulait énormément, et il a été finalement victime de la rancœur, de l'amertume de Gaulle, et également des communistes.
Ah, effectivement, parce que après novembre 1942, Boisson restera en poste à Dakar jusqu'à l'été 1943. On le contraint ensuite à la démission. Il se rend en Algérie. On lui propose d'être intégré dans les rangs de l'armée. Et puis, il est arrêté et menacé d'un procès en haute cour de justice. Et les communistes feront du forcing, parce que, évidemment, pour les communistes, taper sur Boisson, c'est un moyen de faire oublier le pacte Hitler-Staline. Et donc, ils vont en rajouter dans la dénonciation de Boisson, qui sera finalement condamné à la dégradation civique et qui mourra à Paris en 1948.
Merci Patrick Girard. Je rappelle que vous êtes l'auteur de De Gaulle, le mystère de Dakar, publié chez Calman Lévy. Pour en savoir plus sur la France libre, je recommande la lecture de deux ouvrages. Le dictionnaire de la France libre, sous la direction de François Broche, Georges Caetucoli et Jean-François Muracciol, publié chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Et l'Atlas de la France libre de Sébastien Albertelli, publié chez Autrement. À lire aussi aux éditions de l'Acropole, le journal des Français dans la guerre de Philippe Favergeon. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Gaël Braouzek et Gilles Gaillard. Documentation et archivina Camille Pouche-Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans notre émission, l'histoire d'un jeu, le poker.